espoir.
Norquez-vous de passage à Goma, Madame Leïla Zerougui, représentante spéciale des Nations Unies en charge des enfants et des conflits armés, a déclaré que 25 à 30% des éléments des groupes armés sont des enfants. Ces derniers subissent de graves violations de leurs droits et sont exploités sous diverses formes par des chefs de guerre. Elle exige aux chefs des groupes armés locaux et étrangers de libérer ces enfants. Comment analyser cette déclaration de Madame Zerougui? Que faire pour mettre un terme au phénomène enfant dans les groupes armés? Nous en parlons avec Maître Feller Lutai Chiroua, il est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir Maître Feller Lutai Chiroua.
Oui, bonsoir Guy.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, il est avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. Il est aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Bonsoir Maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Et ici au studio, nous avons Joseph Godet Kayembe, il est président du conseil d'administration de la Ligue pour la zone Afrique pour la promotion de l'enfant et de l'élève, Lisadel Ansigle. Bonsoir Jean Godet Kayembe.
Bonsoir.
Nous avons reçu plusieurs réactions, notamment celle de Robert Baume et de Bukavu Sitivu, qui dit des déclarations de Leïla Zerougui par rapport à la présence physique des enfants dans les groupes armés au Nord Kivu sont fondées. Je pense qu'il n'y a pas un moyen d'y mettre un terme qui puisse être efficace, si ce n'est que de mettre carrément fin au phénomène des groupes armés dans cette partie de la RDC. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
À l'occasion de la journée du 20 novembre, pour plus de recrutements d'enfants, plus de Kadogo dans la région des Grands Lacs, déclaration de la représentante spéciale des Nations Unies en charge des enfants et des conflits armés en RDC, Leïla Zerougui, à son arrivée à l'aéroport international de Goma. Pour elle, cette visite est une opportunité de pouvoir faire le point de ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour que les enfants vivent en paix. Madame Leïla promet de continuer son plaidoyer pour que cette situation cesse définitivement et que les autres soit puni. Ces propos sont recueillis par Sifa Maguro.
Il faut qu'on continue à crier fort. Recruter les enfants est un crime. C'est un crime grave, c'est un crime de guerre, c'est un crime pour lequel le commettre doit payer. Et donc les enfants qui ont subi ça, nous devons, un, les prendre en charge, nous devons considérer que c'est des victimes, nous devons assurer qu'ils soient réunifiés avec leur famille, que leurs blessures soient pansées, qu'ils reprennent le chemin de l'école et qu'ils soient assurés que leur avenir soit meilleur. Et ceux qui ont fait ça à ces enfants doivent payer. Et c'est ça notre plaidoyer, notre rôle, notre message et notre présence, c'est de dire plus jamais ça, on ne le permettra plus et on ne laissera pas impunis les crimes qui affectent les enfants.
Dans la conférence de presse ce mercredi, elle a mis l'accent sur les cas des 136 enfants utilisés par la M23 et qui sont encore détenus au Rwanda et en Ouganda. Elle a demandé expressément aux dirigeants de ces pays de les relâcher, quelle que soit leur nationalité, et qu'ils regagnent leur famille. Le gouvernement congolais dispose d'un plan de désarmement, réintégration et de réinsertion sociale des membres des groupes armés nationaux. Selon son porte-parole, lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions qui sont en exécution pour offrir un accueil digne et mérité aux compatriotes qui avaient pris les armes et qui obéissent aujourd'hui à l'appel leur lancé. C'est confié à Radio Okapi, Lambert Mendeo Malanga a évoqué les grandes articulations de ce plan et les reportages de Joseph de Jeff Ngoy.
À la suite du désarmement volontaire des groupes armés, le gouvernement exprime son entière satisfaction. Il présente son plan de réintégration dans la vie sociale, mais pas automatiquement dans l'armée nationale.
Tous ceux qui sont candidats à la reddition, ils sont donc reçus par les forces armées qui travaillent avec la force MONUSCO. Il y a un ramassage des armes qu'ils détenaient auparavant et il y a un entretien pour savoir exactement dans quel secteur de la vie nationale, tel ou tel ancien membre d'un groupe armé souhaite s'orienter avec le programme STAREC et différents autres programmes initiés au niveau du ministère des Affaires humanitaires.
Le gouvernement n'est pas pressé de donner la liste de tous les groupes armés réfractaires sur l'ensemble du pays. Selon Lambert Mende, ce n'est pas encore le moment de l'inventaire.
Nous n'avons pas encore sifflé la fin de l'ultimatum que le chef de l'État a donné aux uns et aux autres, de telle sorte qu'il serait prématuré pour moi de vous donner une liste des gens qui ont répondu positivement ou négativement à cet ultimatum. Je voudrais simplement encourager tous les groupes armés, nationaux ou étrangers, à saisir la perche tendue.
D'après le ministre, l'état-major général des FRDC marquera bientôt la fin de l'ultimatum donné aux groupes armés par des coups de feu dans les zones où resteront encore certaines forces négatives.
Maître Feller Loutaï Chiroua, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. 25 à 30% des éléments des groupes armés sont des enfants. Et comment vous analysez la déclaration de Madame Leïla Zerougui?
Merci Guy Maté. Je vais commencer par saluer les co-débatteurs Monsieur Jean-Paul et Monsieur Joseph. Parce que pour vous, je l'ai déjà fait. Nous considérons que cette déclaration arrive à point nommé parce que Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies est arrivée à Goma après une visite à Kinshasa pour faire un état des lieux de la situation sécuritaire. Et comme actuellement nous faisons face à des masses de combattants qui viennent des groupes armés et qui se rendent, il se fait que effectivement il y avait lieu d'évaluer avec les autorités gouvernementales, évaluer la question et rappeler l'engagement de la République démocratique du Congo qu'on devrait s'abstenir d'intégrer tous les démobilisés et tous les rendus sans tenir compte de quelques spécificités parmi lesquelles tenir compte de l'enfance parce que les enfants ne sont que des innocents absolus et il faudra qu'on puisse réfléchir sur une prise en charge et qui puisse permettre à ceux qui puissent recouvrer leurs droits parce que n'ayant été que victimes quand ils avaient été utilisés dans les différents groupes armés.
Monsieur le vice-gouverneur, ces chiffres sont quand même alarmants. Les enfants constituent 25 à 30% des éléments des groupes armés, en dépit des efforts fournis sur le plan normatif. Nous rappelons ici des nombreuses conventions internationales et leurs protocoles facultatifs.
Bon, ces chiffres-là, c'est-à-dire cette proportion-là, n'engage que l'auteur, parce que il se fait que on doit pratiquement passer par le tri, et c'est pour ça que dans le plan de démobilisation, on devra faire un tri, et par ce tri-là, on devra déterminer l'âge de la personne démobilisée. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir les statistiques plus fiables. Et nous pensons que dans ce plan-là, on pourrait également jouir de la participation et de la collaboration de nos partenaires, y compris la MONUSCO, qui est suffisamment engagée dans le processus BDR au cas par cas, surtout au niveau de ceux qui se rendaient avant le démantèlement du M23 qui a permis à ce que nous ayons des rendus massifs.
Oui, dans la conférence de presse de ce mercredi, Madame Zerougui a mis l'accent sur les cas des 136 enfants utilisés par la M23 et qui sont encore détenus au Rwanda et en Ouganda. Et la RDC s'est-elle déjà renseignée sur la nationalité de ces différents enfants afin qu'éventuellement elle puisse obtenir leur libération s'ils sont congolais?
Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de rendus et parmi lesquels des enfants qui se réclamaient être des étrangers et nombreux parmi eux venaient du Rwanda. Donc les recrutements se faisaient au Rwanda et ces enfants-là étaient éjectés au Congo à travers le M23 qui les formait activement et qui les lançait sur les fronts. Et il y a eu énormément de pertes, mais il y a eu aussi énormément de rendus et il y a eu aussi quelques capturés. Et nous considérons que à partir de ceux qui ont fui vers l'Ouganda et vers le Rwanda, au niveau des mécanismes conjoints de la CIRGEL, on pourra certainement engager une évaluation qui pourra déterminer au cas par cas l'enfant provient de quelle origine et de quel état et qu'est-ce que finalement on devrait faire. Nous saluons l'accord cadre d'Addis Abeba qui pourra permettre à ce qu'on puisse solutionner ce genre de problème.
Oui, monsieur le vice-gouverneur, le gouvernement, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, monsieur Lambert Mende, qui dit que le gouvernement a un plan DDR. Dans ces DDR, est-ce que on peut savoir s'il y a des structures qui sont prévues, n'est-ce pas, dans ces plans pour accueillir les enfants qui ont servi dans les groupes armés ou vous comptez les mettre ensemble avec les adultes?
Non, à partir des instructions qui sont données, à partir du plan qui est défini, il faudra monter un plan opérationnel. Et nous considérons que présentement, on est en train de recevoir les démobilisés, les rendus, et c'est encore très tôt d'en faire une évaluation. Mais nous considérons que effectivement les enfants doivent avoir une considération particulière à ne pas mêler avec tous les autres démobilisés adultes, les rendus, mais aussi tous ceux qui devraient être recrutés au niveau des FARDC ou au niveau de la police. Donc il faudra un traitement différentiel.
Oui, nous avons ici la réaction de Matumaini Franklin de Bukavu, Sud Kivu, qui dit « L'utilisation des enfants par les groupes armés est due à la volonté d'avoir plus d'éléments et gonfler les effectifs pour se tailler une part importante lors de l'intégration dans les traitements et fonctions de l'effectif, d'où la tolérance zéro à l'endroit de ceux qui utilisent les enfants. » Il y a aussi Jean-François Mouroula de Bombero, Sud Kivu toujours, qui dit « L'enrôlement massif des enfants congolais dans les groupes armés est la conséquence du manque de prise en charge sérieuse de l'enseignement de ces enfants par notre gouvernement. Il doit y veiller. Est-ce que cela ne constitue pas parmi les facteurs, n'est-ce pas, qui expliquent ces phénomènes?
Bien, nous pensons que c'est pratiquement un cercle vicieux, mais nous considérons que les groupes armés constituent déjà une déviation. Et dès qu'on aura mis fin aux groupes armés, on va accroître, on va améliorer l'environnement des affaires, et en améliorant l'environnement des affaires, la sécurité au niveau et de la famille, au niveau des villages, il se fait que les enfants vont recouvrer l'environnement naturel qui est l'environnement des enfants, c'est-à-dire d'abord la famille. Et la famille dans le village, dans la localité, et cela pourra permettre à ce que l'enfant puisse recouvrer l'école et continuer poursuivre une vie normale au niveau de la société. Donc Merci. Nous considérons que la chose à combattre, c'est la racine, et la racine, ce sont ces groupes armés-là. Dès que ces groupes armés sont éradiqués, et il n'y aurait pas de raison que des enfants se fassent encore recruter dans des bandes armées.
Merci, monsieur.
Et à ce moment-là, on aura solutionné le problème. Et, mais aussi, ce n'est pas facile parce que il faut tenir compte aussi de la vulnérabilité actuelle maintenant de la famille congolaise, c'est-à-dire des parents. Et là aussi, ça va prendre un peu de temps. Mais au niveau du gouvernement, il faudra commencer quelque part et s'y mettre.
Merci, monsieur le vice-gouverneur, maître Jean-Paul Lumulumbu. Je rappelle que vous êtes avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. Et vous êtes aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Comment vous analysez les déclarations de madame Zerougui?
Encore une fois, bonjour, monsieur Guimaté. Je voudrais apporter un correctif, c'est que je suis le point focal désormais de la coalition de partis politiques de l'opposition IFAC à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, je voudrais tout bonnement saluer le vice-gouverneur Maître Seller Lotaï-Tiroir, en même temps que monsieur Joseph Kongolo, avec qui j'ai le privilège de partager ce plateau sur un thème aussi important qui est la problématique de la présence des enfants soldats dans le groupe armé. En fait, c'est avec désolation que moi j'ai reçu cette confirmation de madame Leïla Zerougui, faisant état d'un pourcentage, pas le moindre, de 25 à 30% des enfants qui sont dans le groupe armé. Eh bien, ce sont des enfants d'abord qu'il faut signaler sur le plan social. Qui ont été privés d'un certain nombre de droits qui pourtant sont garantis non seulement par les instruments juridiques internationaux mais également par les droits nationaux congolais, notamment je fais ici allusion au droit à l'éducation. Évidemment, c'est un pourcentage qui essaie d'interpeller un peu non seulement la nation congolaise mais également ceux-là qui s'emploient à prendre des armes et à utiliser les enfants comme outil, mais au-delà du fait que c'est une situation tout à fait alarmante en République démocratique du Congo, c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait singulier lorsque vous essayez de parcourir l'évolution des guerres en Afrique particulièrement, vous allez constater que les enfants sont souvent la victime des seigneurs de guerre et qui les utilisent à bon escient pour des fins dont ces mêmes enfants ignorent la finalité. Et que donc le pourcentage donné par Mme Zerougui, sous réserve que cela soit confirmé, comme l'a dit le vice-gouverneur, sous réserve que cela soit confirmé lors de l'opération de démobilisation et de réintégration sociale, je pense que tout de même, cela devrait interpeller en même temps la communauté internationale, parce que l'enrôlement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés, non seulement dans les groupes armés, mais dans l'armée nationale, est perçu comme un crime de guerre et qu'il existe des instruments juridiques internationaux. Eh bien, je pense que Mme Zerougui, en tant que représentant de la communauté internationale, comme il l'a dit, elle va devoir faire de tout son mieux pour que non seulement ceux qui se sont employés à recruter ces enfants puissent subir la rigueur de la loi sur le plan international, mais qu'au niveau également du gouvernement, au niveau interne, qu'on essaie de changer. Qu'est-ce qui est à la base du fait que les enfants acceptent tout de même dans les groupes armés? C'est vrai qu'il en existe une catégorie qui sont recrutés et qui acceptent d'aller servir dans les groupes armés parce qu'ils y sont contraints, ils ont peur pour leur vie. Et par cette contrainte d'être tués, ils sont obligés de tuer, de violer et d'exécuter des ordres un peu déplacés. Bon, en fait, je me dis, c'est vrai qu'il y en a qui sont recrutés par la force, mais il y en a également qui y vont parce que, ben, écoutez, l'environnement ne permet pas à la jeunesse de pouvoir trouver de l'emploi, par exemple, et que cela également est un facteur qui devrait interpeller le gouvernement au niveau national, au niveau provincial, heureusement que le vice-gouverneur est là, et pour qu'on essaie de voir comment résoudre ces problèmes à la longue. Donc, je partage tout à fait la préoccupation de Madame Leïla, mais pour autant que les chiffres qu'il a donnés soient confirmés à l'occasion de l'opération de démobilisation et de réintégration qui va s'effectuer selon le plan que le gouvernement vient d'annoncer.
Maître, je vais vous lire aussi cette réaction que j'ai lue à l'intention du vice-gouverneur. C'est celle de Matumaini Franklin de Bukavu Sud-Kivu qui dit « L'utilisation des enfants par les groupes armés est due à la volonté d'avoir plus d'éléments et gonfler les effectifs pour s'étayer une part importante lors de l'intégration dans les traitements et fonctions de l'effectif, d'où la tolérance zéro à l'endroit de ceux qui utilisent les enfants. Vous ne pensez pas que cela puisse constituer aussi un des facteurs qui explique l'ampleur que prend ces phénomènes. Des gens qui, n'est-ce pas, pour gonfler leurs effectifs, ils recrutent des enfants des forces, et parce que quand il sera question des négociations, n'est-ce pas, on va tenir compte des groupes armés qui ont beaucoup plus d'effectifs que ceux-là qui n'en ont pas assez.
Évidemment, cet argument, cette opinion de cet auditeur peut être justifiée. Parce que vous savez, les groupes armés, chaque fois qu'il en est, qui sont opérationnels, c'est que l'objectif, c'est que si, à défaut de renverser les régimes, on aboutit très souvent à des négociations. Or, il faut, lors des négociations, essayer de monter la barre en haut. J'ai ouï dire de l'autre côté, par exemple, de la rébellion. Lorsqu'on parle des 1700 personnes, par exemple, qui doivent quitter les 1-23 pour intégrer l'armée nationale, vous allez constater que, bon, pour moi, ce sont des chiffres qui, en réalité, sont totalement faux. Et lorsque vous essayez de vérifier, dedans, ce sont les enfants qui ont été utilisés. Ce sont des chiffres qui n'en valent pas la peine, qui sont exploités tout simplement à des fins politiques. Et c'est la raison pour laquelle je partage le point de vue de cet auditeur qui dit qu'il faudrait une tolérance zéro. Eh bien, c'est d'abord le rôle de la communauté internationale. La communauté internationale qui a reconnu une compétence générale, par exemple à la Cour pénale internationale, de pouvoir s'occuper de la question du recrutement des enfants dans les groupes armés, pas seulement dans les groupes armés, mais également dans l'armée nationale. Les statuts des Roms interdit formellement, il en est ainsi, de la Convention sur le droit de l'enfant. Et même le droit congolais, la loi protégeant l'enfant en République démocratique du Congo, essaie de revenir également sur un certain nombre d'interdictions. On ne peut pas concevoir qu'un groupe armé puisse se référer à l'utilisation des enfants dès lors que cette utilisation non seulement va rendre cet enfant victime de cette même utilisation et qu'au finish va rendre cet enfant plus tard auteur. Alors, ça nous ramène à une complexité même de la situation de ces enfants, en même temps qu'ils sont des victimes parce qu'ayant été utilisés abusivement par des seigneurs de guerre à des fins essentiellement politiciennes, mais également au final ces enfants se trouvent être des bourreaux parce que parfois ils sont contraints de commettre des crimes dans leur propre village, parfois les uns on les oblige à violer même leur sœur, leur mère, et la complexité de leur statut fait assez que très souvent, et même lorsqu'il faut sanctionner, on a tendance à privilégier, selon le droit international par exemple, à privilégier beaucoup plus le statut des victimes que le statut d'auteur. C'est vraiment une situation catastrophique qui doit interpeller la communauté internationale, et l'on devrait mettre sur pied des mécanismes afin que la sanction soit la plus rigoureuse possible à l'endroit de tous ceux qui s'emploient au recrutement des enfants dans le groupe d'armée, de telle sorte que les seigneurs de guerre sachent que lorsqu'il y a un mouvement insurrectionnel qu'ils veulent soutenir, mais que le recours aux enfants soldats les exposerait à une certaine méfiance de la communauté internationale.
Merci Joseph Godet-Kayembe. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue pour la zone Afrique pour la promotion de l'enfant et de l'élève, l'ISADEL en sigle. 25 à 30% des éléments des groupes armés sont des enfants. Votre analyse?
Oui, je salue tous les amis qui participent à cette émission. Je voudrais d'abord les remercier pour la précision et la concision dans les idées. Je retiens d'abord que les chiffres qui est donné, quand on dit 20%, 30%, c'est par rapport à quel chiffre, ça je ne sais pas. Et aussi, il y a des réserves qui ont été...
Évidemment, ça vient de Mme Leïla Zerougui.
Par rapport à quel chiffre? Parce que nous devons savoir quel était l'effectif de ce groupe armé. Et quand on dit 20%, ça représente combien d'enfants qui sont recrutés dans ces groupes armés?
Vous êtes toujours occupé, n'est-ce pas, des questions qui touchent aux enfants. Oui. Pensez-vous que ces chiffres exagèrent, en fait, on exagère en donnant ces chiffres ou c'est en deçà de ce que vous avez toujours estimé?
Je ne veux pas amener la discussion dans ce sens parce que vous savez que dans notre pays ici, on fabrique beaucoup de choses aussi. Vous savez que quand il y a des violences sexuelles à l'Est, on vous dit il y a 10 000 femmes qui sont violées la même nuit. C'est comme s'il y avait 1 000 hommes alignés pour violer 10 000 femmes. Et c'est ainsi que le gouvernement a décidé de s'occuper de ces statistiques pour que ce soit officiel, pour éviter que les gens fassent de cela le fonds de commerce. Mais néanmoins, par rapport à ça, nous déplorons le fait que l'utilisation des enfants, que ce soit un enfant, que ce soit deux enfants utilisés dans l'armée, nous déplorons ça et nous demandons à ce que les instances internationales qui s'occupent de la protection des enfants puissent s'avertuer à pouvoir sanctionner toutes les personnes qui utilisent les enfants, y compris les complices. Les complices sont les personnes qui utilisent ces forces armées pour exploiter nos minerais à l'Est.
Oui, monsieur Jean Godet Kayembe, Joseph Godet Kayembe. Oui. Vous vous occupez de cette question, n'est-ce pas, qui touche aux enfants. Comment vous expliquez l'ampleur que prend ce phénomène, en dépit du fait qu'il y a des efforts qui sont fournis sur le plan international, sur le plan national? Et c'est vrai que maître Jean-Paul Lumbulumbu a évoqué la contrainte, n'est-ce pas? Ces enfants sont contraints d'être recrutés au sein des groupes armés. Il y a aussi cette pauvreté, n'est-ce pas? Les enfants qui sont pauvres, qui vivent dans des conditions difficiles, qui se sentent des fois dans l'obligation d'aller se réfugier dans les groupes armés. À part ces deux facteurs, quels sont les autres facteurs qui peuvent expliquer l'ampleur que prend ce phénomène?
Non, ce phénomène, pour nous et pour moi, je crois que c'est le fait que l'école a été détruite, le système a été détruit du fait que l'État ait abandonné la gestion de l'école entre les mains des parents, ce qui fait que beaucoup d'enfants sont au chômage. La situation que nous vivons à l'Est, le fait, l'engagement ou le recrutement des enfants, que ce soit volontaire ou non volontaire, c'est aussi la situation que c'est semblable à celle que nous connaissons à Kinshasa, les enfants Kuluna, qui n'ont rien à faire, qui se deviennent une force armée capable de détruire qui il veut. Donc, le fait de l'absence de la protection des enfants dans la politique nationale, bien qu'il y ait la loi sur la protection de l'enfant, qui n'est pas mise en œuvre, parce que l'État devrait garantir le droit à l'éducation à tous les enfants, et cela permettrait à ce que les enfants aient de l'instruction et puissent imaginer un avenir heureux. Malheureusement, beaucoup d'enfants qui sont recrutés dans cette armée, quand vous les suivez de près, ce sont les enfants issus des familles pauvres qui n'ont pas d'instruction et qui croient, qui espèrent que dans les forces armées, dans les groupes armés, ils peuvent faire leur avenir. Et ça, c'est la faute de nos gouvernants qui ne prennent pas la responsabilité de protéger les enfants en leur réservant la possibilité de pouvoir étudier. Et ça, c'est connu, et le budget que nous allouons à l'éducation ne le permettra pas. D'ailleurs, ce n'est même pas faute de nos gouvernants. Je sais que c'est une situation qui vient très loin. Je vous ai toujours expliqué que si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce qu'en fait, l'État congolais s'est engagé à pouvoir travailler avec la Banque mondiale FMI à l'époque lorsque nous sommes entrés dans le programme d'ajustement structurel qui a fait que
vers l'État soit amélioré. Les années 84.
Et ça fait que l'État qui affectait à l'éducation 33% du budget pour permettre à tout le monde d'étudier et d'encadrer suffisamment les enseignants, d'avoir une formation de qualité, ce gouvernement se retrouve en train d'affecter à l'éducation 1% du budget. Tout est tombé comme une carte. Donc aujourd'hui, la situation que nous vivons, c'est aussi la communauté internationale qui en est le responsable. Parce que si on laissait les Congo évoluer comme il évoluait avant, aujourd'hui nous étions une référence par rapport à l'éducation sur le plan africain. Et aujourd'hui, nous sommes à la queue à cause du fait de cette politique d'ajustement structurel qui a détruit la structure économique et l'école et la santé. Et la protection même. Donc aujourd'hui, il doit être responsable de la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Donc il ne faut pas, lorsque nous parlons, que nous puissions oublier que le malheur du Congo vient de la communauté internationale. Et ça, ils doivent le savoir, ils doivent être responsables. Et ils doivent apporter des moyens pour que le Congo, le gouvernement congolais, puisse être à mesure de pouvoir répondre de ses obligations vis-à-vis de nos enfants.
Monsieur Joseph Godet Kayembe, il y a aussi la convention relative aux droits de l'enfant qui interdit le recrutement forcé des jeunes de moins de 18 ans. Il y a d'autres conventions internationales et leurs protocoles facultatifs qui protègent les droits des enfants et interdisent leur enrôlement dans les conflits armés. Et qu'est-ce qui fait que ces différents textes ne produisent pas d'effet? N'ont-ils pas des caractères contraignants ou il y a un déficit de volonté de la part des États qui les signent?
Non, il y a eu la volonté par rapport à notre gouvernement, par rapport au recrutement des enfants, il y a eu la loi sur la protection de l'enfant. La loi sur la protection de l'enfant, c'est une volonté exprimée par l'État congolais. Ça, nous devons quand même être reconnaissants. Il y a eu la volonté de l'État d'intégrer dans l'arsenal juridique congolais la convention relative aux droits, la disposition de la convention relative aux droits de l'enfant et d'autres conventions pour que les droits de l'enfant soient protégés. Et pour ce qui est du recrutement des enfants, du côté du gouvernemental, je n'ai jamais entendu qu'il recrute les enfants du côté gouvernemental. Mais nous l'apprenons, c'est de l'autre côté, du côté de rebelles. Et cette volonté existe pour le recrutement des enfants. Cette volonté existe du fait de la loi qui protège les enfants qui existent. Mais quant à son application, par rapport à ça, l'État l'applique, l'État congolais l'applique. Mais ce sont des rebelles qui sont hors la loi et qui ne le respectent pas.
Et vous êtes certain que au sein des FRDC, il n'y a pas d'enfants
insolvables? Je ne suis pas.
Parce qu'en fait, on n'accuse pas seulement les groupes armés, on accuse aussi les armées classiques et surtout dans les pays en voie de développement.
Oui, je n'ai pas de statistiques, mais du moins pour ce qui est du Congo, il y a eu beaucoup de programmes, beaucoup de sensibilisations qui ont été menées par beaucoup d'organisations, y compris la MONUSCO, qui est en train de veiller à ça, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas personnellement des statistiques par rapport à l'engagement des enfants de l'armée, l'armée congolaise. Ça, je n'en ai pas.
Maître Feller Lutachiwa, il y a un rapport des Nations Unies qui était sorti le 23 octobre 2013, de la MONUSCO, en fait, qui dit qu'elle est préoccupée par des rapports persistants faisant état des recrutements d'enfants par des groupes armés en RDC et demande à tous les acteurs d'aider à arrêter et à empêcher cette grave violation des droits de l'enfant. Et selon ce rapport, presque 1000 cas de recrutement d'enfants par des groupes armés ont été vérifiés par la MONUSCO entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2013, principalement dans le Nord Kivu et les groupes armés Nyatura, les forces démocratiques de libération du Rwanda, donc les FDLR et les M23 ont été identifiés comme ayant respectivement recruté 190 enfants, 137 enfants et 124 enfants au sein de leur groupe durant de cette période considérée. Comment vous expliquez cela?
Monsieur Guy, nous considérons que, tel que nous l'avions dit, il se fait que nous déplorons cette situation, mais qui part déjà d'une déviation, parce qu'un groupe armé, c'est pratiquement un phénomène hors la loi, c'est une rébellion. Et dans la rébellion, il n'est pas aisé de dire vous êtes dans une déviation, mais limitez quand même cette déviance. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, il faut retenir que beaucoup d'enfants recrutés dans les groupes armés viennent des pays voisins, que ce soit les FDLR, vous connaissez leur origine, ils viennent du Rwanda. Le M23 a recruté beaucoup plus au Rwanda. Et cela nous pose un problème assez sérieux. Et c'est pour ça que nous disons que ce serait intéressant que dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, on puisse aborder sérieusement cette question. Parce qu'il faut retenir d'abord que, un, les enfants ne demeurent pas enfants. Finalement, les enfants grandissent. Et sur le plan historique, le phénomène Kadogo, c'est un phénomène qui a eu toute une histoire. Nous savons par où ça avait commencé et ils sont nombreux aujourd'hui qui pourraient être des officiers et qui jadis avaient été des Kadogo. Et peut-être que même les armées qui avaient utilisé ces Kadogo de jadis, qui sont devenus des adultes, et peut-être que eux et ces armées-là trouvent quelques vertus particulières dans ce type d'éléments armés. Et qu'ils trouvent que ce serait intéressant d'utiliser dans les rébellions, de continuer à utiliser des enfants. Mais... il n'y a pas que le phénomène de gonflement d'effectifs qui justifierait le recrutement des enfants dans les groupes armés, mais il y a aussi la fragilité du tissu familial, il y a aussi le fait que les enfants se font plus facilement manipulés, mais il y a aussi les faits historiques qui fait que les anciennes rébellions avaient utilisé les enfants et des enfants qui avaient été recrutés finalement qui ont grandi et c'est pour ça que dans la sous-région ce phénomène est un tout petit peu banalisé, mais nous considérons que pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le fait que le gouvernement ait décidé que plus jamais on ne recrutera un groupe armé, donc on ne fera pas un recrutement de tel groupe armé au sein de l'armée, le recrutement ne pourra se faire que individuellement, au cas par cas, et pour les Congolais, après vérification, après le critérium qui pourrait être satisfaisant, à ce moment-là, on recrute.
Merci.
Et donc, nous considérons qu'actuellement, il faut voir l'avenir et se dire qu'est-ce qu'on va faire de démobiliser et des rendus de tous ces enfants qui pourraient venir des groupes armés, particulièrement pour les Congolais.
Merci, M. Feller.
Qu'est-ce qu'on ferait pour les étrangers? Et c'est pour ça que le phénomène est beaucoup plus complexe, parce que pour la prise en charge d'un enfant, il faut le prendre en charge jusqu'à ce qu'il soit adulte.
Merci, maître.
Mais aussi, il faut un regard sur la famille où l'enfant pourra être réinséré.
Merci. Notre deuxième partie de cette émission, que faire pour mettre fin au phénomène enfant dans les groupes armés en RDC? Maître Jean-Paul Lumbulumbu, je rappelle que vous êtes avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition à l'est de la RDC. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Kabandani, je suis à Bukavu, Robert du sud Kivu. Pour mettre fin à l'enrôlement des enfants soldats, il faut éradiquer d'abord le phénomène groupe armé et rébellion dans notre pays, la RDC, que nous puissions ressembler d'autres pays africains qui sont stables, comme la République sud-africaine, la Tunisie, etc. Et cela ne sera possible que lorsque nous aurons mis à côté notre démocratie à la congolaise et introduit la véritable démocratie basée sur le respect des droits de l'homme, des libertés de presse et d'opinion, l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes, dont les résultats sont acceptables à tout le monde. C'est l'unique schéma qui empêcherait toute personne qui se sentirait lésée dans ses droits par tel ou tel problème à ne pas prendre les armes. Lorsqu'il y aura zéro rébellion et groupe armé, il y aura zéro enfant soldat.
Maître, votre réaction?
Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur, mais que seulement l'on pourrait aborder ces aspects au niveau interne. Moi, je voudrais plutôt proposer pour essayer de combattre de manière définitive le phénomène de recrutement des enfants dans les groupes armés, qu'il y ait d'abord une sorte de prise de conscience sur le plan international. La communauté internationale doit prendre conscience qu'elle doit jouer son rôle dans la répression rigoureuse de tous ces faits qui sont constitutifs de crimes de guerre. Il faudrait que il puisse y avoir des mécanismes de répression sans complaisance de tous les auteurs des crimes de guerre qui se traduisent par le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés. Et c'est là, non seulement au niveau international, mais également, particulièrement en ce qui concerne la RDC, au niveau sous-régional, le pays des Grands Lacs. Vous savez, ce recrutement des enfants soldats devient comme une menace à la sécurité et à la paix dans la région des Grands Lacs. Il faudrait, à ce niveau également, au deuxième niveau, qu'il y ait une volonté politique prononcée de la part des chefs d'État, membres des pays des Grands Lacs, sur le fait que l'utilisation des enfants dans les groupes armés est une menace permanente à la paix et à la sécurité, mais qu'au niveau des gouvernements respectifs également, il faudrait mettre sur pied des programmes qui puissent être en mesure d'occuper les enfants. Il faudrait mettre sur pied de créer l'emploi, allais-je dire. Il faut créer des emplois qui puissent occuper les enfants. Il faudrait assurer l'éducation des enfants. Aussi, comme l'a dit le gouverneur, la pauvreté est aussi un facteur qui peut encourager les jeunes à accepter cet enrôlement dans le groupe armé. Non seulement la pauvreté, mais également le chômage. Donc, je proposerais de manière globale qu'au plan international, qu'il y ait une prise de conscience de la communauté internationale sur la nécessité de la répression la plus rigoureuse de tous les seigneurs de guerre qui s'emploient au recrutement d'enfants dans leurs groupes armés, en même temps qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait une prise de conscience afin d'occuper, de créer l'emploi et de pouvoir occuper, assurer l'éducation des enfants.
Merci. Joseph Godé Kayembe, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue pour la zone Afrique pour la promotion de l'enfant et des élèves Lisadel. Que faire pour mettre fin au phénomène enfant dans les groupes armés en RDC? Vous venez de suivre Maître Lumbulumbu qui pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sur le plan national, qu'il y ait des mécanismes de répression, n'est-ce pas, à l'endroit de toutes les personnes auteurs des recrutements des enfants dans les groupes armés, et puis une certaine volonté de la part des pays de la région des Grands Lacs.
Oui, tout en étant parfaitement d'accord avec tout, avec lui, ainsi que l'intervenant, lorsqu'il parle de respect, de résultats des urnes, parce que, en fait, c'est aussi la frustration qui amène à tout ça. Il faut absolument que la République démocratique du Congo s'implique dans la vraie démocratie pour que tous ces problèmes soient réglés, de manière à ce que l'on ne puisse pas continuer à avoir des gens frustrés qui s'organisent pour avoir des raisons de pouvoir continuer à utiliser les enfants. J'insiste aussi que tout ce que nous vivons dans ce pays, on ne doit pas oublier la participation de la communauté internationale, parce que tous ces rebelles sont soutenus par la communauté internationale, par les hommes d'affaires qui veulent faire les affaires dans notre pays. Et ça, on ne doit pas oublier. Et même quand même il doit y avoir des sanctions, et ça j'insiste, s'il doit y avoir des sanctions contre les groupes armés, donc les responsables des groupes armés, on doit aussi sanctionner les commanditaires de ces responsables des groupes armés.
Ceux qui appuient
ces gens doivent être aussi sanctionnés.
Et à ce moment-là... Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient d'Ariwara, en province orientale.
Joseph Koutou Adrako d'Ariwara, province orientale. Chaque fois quand les cas d'enrôlement des enfants au sein des groupes armés est signalé, il n'y a normalement pas une réaction juridique nationale, pas internationale. Cela devient pour nous une coutume. Cette fois, nous voudrions voir les auteurs être sanctionnés, être traduits devant la justice compétente en matière et trouver des voies et moyens pour rééduquer ces mineurs et les encadrer et les orienter dans la vie.
Et donc, il y a une certaine banalisation, n'est-ce pas, de ces phénomènes. Ça sera aussi votre conclusion.
Oui, c'est aussi une banalisation. Mais le plus important pour nous, et ce que nous croyons, c'est que si l'État congolais reprend ses responsabilités en ce qui concerne l'encadrement de l'enfant, l'éducation civique des enfants, ça va permettre à ce que les enfants ne soient pas recrutés de manière abusive et au niveau de l'armée, au niveau des groupes armés, et que ces enfants s'expriment de manière patriotique. Parce que aujourd'hui, comme vous le savez, notre système éducatif n'a pas de repères pour permettre aux enfants d'être patriotes. On apprend aux enfants à parler français et écrire, et ceux qui vont à l'école ne sont pas pris en charge, leurs études sont clôturées. Leur parcours se voit être obstrué à cause du fait que le parent soit incapable de payer les études.
Merci Maître Feller Lutaïchiwa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Mujimai au Kasai Oriental.
Galvani Thiou Placide à Mujimai au Kasai Oriental. La situation des enfants dans les groupes armés reste préoccupante. Cela s'explique par le manque d'accès à l'éducation, la pauvreté criante de leur famille et j'en passe. Pour y faire face, le gouvernement congolais doit se doter d'une bonne politique de réinsertion en construisant les centres d'apprentissage et professionnels, des centres de réinsertion familiale et rendre l'éducation gratuite et obligatoire pour de tels enfants. Bref, rendre la vie civile des enfants plus attrayante que celle qui les attire dans les groupes armés, mais aussi lutter contre l'impunité des auteurs de violations du droit des enfants.
Monsieur le vice-gouverneur, votre réaction, ce sera aussi votre conclusion.
Nous pensons qu'il faut voir le contenant. Le contenant étant les groupes armés. Dès qu'on aura éradiqué les groupes armés, il se fait que l'État va s'occuper du processus de reconstruction, de réhabilitation, ce qui va améliorer la vie au niveau des villages en y rétablissant l'autorité de l'État. Cela va avoir un impact sur le tissu familial, sur toutes les localités, tous les groupements, tous les secteurs. Et nous considérons que par ce processus-là, non seulement l'enfant, mais toute la famille.
Merci, merci.
Pourra
merci, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à présenter cette émission. Bonne suite de programme sur Radio Capi.